semaine, la semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expat depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est la balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vendredi 13 mai 2022, ici Alex Bayergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Cheese 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Toujours content de vous retrouver chaque semaine. On a... un peu ri ce matin. C'est une très longue pause, mais on a ri cette semaine. Puisque le Bitcoin s'est effondré. Les crypto-monnaies ont connu leur pire semaine à vie. C'est pas nécessairement parce que c'est arrivé que ça c'est drôle, mais c'est surtout que on a beau mettre en garde que c'est plus complexe que la bourse, au sens où du jour au lendemain, justement, ça peut perdre du 50, ça peut perdre 58% de sa valeur, ça peut perdre jusqu'à 86%, je pense, la monnaie qui en a perdu le plus. C'est ça, des pertes de 53 à 86% pour tout ce qui est Bitcoin, Binance, Terra, Tron, Avalanche, Polygon, etc., etc. Cardano, Polkadot. Il y en a que j'avais jamais vu d'ailleurs. Donc pour le LOL, ça peut être le fun. Pour ceux qui ont mis l'entièreté de leurs économies, c'est moins drôle. On peut en parler entre autres à l'aspirant chef des conservateurs, Pierre Poilievre, qui voudrait qu'on se débarrasse de l'argent canadien pour tout mettre dans le Bitcoin. Mais si on avait fait ça, on aurait perdu 53% de nos avoirs dans la seule journée d'hier. C'était-tu hier? Le 11. Donc mercredi. Ce qui fait également en sorte que le fan numéro 1 de Bitcoin au monde, Elon Musk, multimilliardaire, a peut-être perdu un petit peu d'argent dans les derniers jours, puisque... ce matin, on apprenait qu'Elon, patron de Tesla, suspendait son offre de rachat sur Twitter dans l'attente des détails, dit-il, sur la proportion de faux comptes qu'on trouve sur le réseau social. Bon. Le patron de Tesla et de SpaceX avait passé un accord fin avril avec le conseil d'administration de Twitter pour racheter le réseau social au prix de 54,20 $ US, soit 70 $ canadiens, par action, et en faire une entreprise privée non cotée en bourse. Ironiquement, le fait que Elon Musk ne veut plus racheter Twitter a fait en sorte que Twitter a perdu 20% aussi à la bourse cette semaine, aujourd'hui. L'acquisition de Twitter est suspendue de manière temporaire dans l'attente des détails sur le fait que les pourriels, les faux comptes, représentent bien moins de 5% du nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices, a écrit Elon Musk sur la plateforme où il compte près de 93 millions de personnes abonnées, lui-même dans ce cas-ci. La proposition de faux compte est un indicateur clé pour Twitter, indique Susanna Streeter, analyste des marchés pour Hargreaves Lansdowne, car le calcul du nombre précis de personnes qui tweetent réellement est considéré comme crucial pour les flux futurs de revenus au moyen de la publicité ou des abonnements payants sur le site. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question. Elon Musk, ironiquement, a promis de se débarrasser de Twitter, des pourriels, d'authentifier les utilisateurs et utilisatrices et de renforcer la transparence sans préciser comment il comptait mettre en œuvre ce projet. Donc, sans aucun rapport avec le fait qu'il a probablement perdu beaucoup d'argent cette semaine, soudainement, il veut plus racheter Twitter parce qu'il a peur de découvrir qu'il y a beaucoup trop de faux comptes. Quand il promet de se débarrasser des faux comptes, il devient difficile à suivre. L'entreprise a indiqué début mai, lors de la présentation de ses résultats trimestriels, qu'elle comptait en moyenne 229 millions de personnes qui utilisaient le réseau social dit monétisable. Donc 229 millions d'utilisateurs réguliers sur les plateformes, donc à qui on peut leur glisser ici et là une petite publicité entre deux tweets. Elle avait estimé cette occasion que moins de 5% d'entre eux étaient des messages non sollicités ou des faux comptes. Donc, les espèces de robots en place que, pour aucune raison, tu te fais suivre par des personnes que tu ne connais pas et que leur seul descriptif de compte, c'est « Hi, follow me on this site, deux points, un lien vers un site extérieur. » Donc, clairement, pour aller chercher, mener sur d'autres sites un peu illicites. M. Musk a également affirmé vouloir faire de la plateforme un bastion de la liberté d'expression et s'est dit prêt même à réintégrer Donald Trump, dont le compte a été suspendu définitivement après l'attaque du Capitole survenue en janvier 2021. Et évidemment, le principal intéressé a dit « quand même que je serais débarré, ça ne me tente pas d'y aller ». Ça durerait probablement 3 jours et il serait déjà retourné dessus si ça arrivait. Depuis l'offre d'acquisition, faut faire attention, c'est pas tout à fait le même mot, du patron de Tesla et de SpaceX, la valeur boursière de Twitter a fondu de plusieurs milliards de dollars. Le titre s'échangeait vendredi à un peu plus de 36 US, bien en dessous du prix de rachat des actions proposées par le milliardaire. Je rappelle, voulait donner 54,20. Et en ce moment, acheter une action de Twitter, ça serait 36 $. Selon Dan Ives et de Wedbush Securities, le dernier gazouillis d'Elon Musk va transformer le cirque qui est le rachat de Twitter en film d'horreur. Wall Street va maintenant estimer que la transaction est sur le point de tomber à l'eau, que c'est une tentative de Musk de négocier un prix d'achat plus bas ou que Musk souhaite simplement se retirer de la transaction avec une indemnité de rupture de 1 milliard de dollars. Les dirigeants avaient pourtant cherché à rassurer sur sa capacité de financer l'opération, prévoyant avoir recours à un apport personnel considérable et de solliciter un prêt bancaire ainsi qu'un prêt sur marge dans lequel il engagerait ses actions Tesla comme garantie collatérale. Donc, il était sérieux jusqu'à un certain point. Au début du mois, Elon Musk affirmait qu'il avait levé un peu plus de 7 milliards de dollars américains auprès de divers investisseurs, dont le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, et le prince et homme d'affaires saoudien, Al-Walid Ben Talal. Pourquoi pas? Selon Dan Ives, qui était, je le rappelle, parce que ça fait déjà un petit bout de Wedbush Securities. Voilà, l'entrepreneur a surestimé la solidité de ses actions Tesla, dont le cours a nettement reculé également depuis l'annonce du rachat de Twitter, parce qu'évidemment, les investisseurs de Tesla font comme « c'est pas vrai qu'on va financer Twitter par la bande », et pourrait chercher à protéger le constructeur de véhicules électriques en disant « ouais, finalement, Twitter, je n'ai pas tant que ça ». Le fait que Musk crée une telle incertitude avec ses tweets et non un document boursier est très perturbant et pour Wall Street et pour les investisseurs et suscite de nombreuses questions, mais pas de réponses concrètes quant à savoir si la transaction aura bien lieu. Ce qui est un peu ironique. Donc, Elon veut s'accaparer Twitter, promet de donner de l'argent de ses autres compagnies. Les autres compagnies n'aiment pas ça tant que ça, donc Elon fait à croire qu'il va finalement reculer pour essayer de sauver les meubles dans sa compagnie originale, en espérant que ça sera suffisant pour ne pas que tout ne s'effondre pas, mais ça fait en sorte que Twitter se retrouve dans le trouble parce que maintenant ils sont en train de perdre leur principal acheteur, même si c'était pas à vendre. Ça devient compliqué. Mais en même temps, ça permet de montrer également à quel point il a une espèce de pouvoir que parce qu'il l'écrit sur Twitter, parce qu'il fait des promesses sur les réseaux sociaux, ben soudainement ça devient gros, ça devient big, ça devient vraiment important. Et c'est ce qui est arrivé aussi avec le Bitcoin, parce qu'autant il est son principal vendeur, entre guillemets, ou en tout cas qu'il le vante, dans le sens de glorifier le tout, ben ça fait en sorte également qu'il y a eu des remontées sur le Bitcoin lorsque lui-même disait « Ah, le Bitcoin, c'est une bonne chose. Oh, on a l'homme le plus riche sur la planète qui dit que notre truc est bon, on va en acheter nous autres aussi. » Ce qui a fait peut-être expliquer l'espèce de remontée du Bitcoin dans les derniers mois, parce que il y a eu un sommet à la fin de l'an dernier, c'était pas au début de l'automne l'an dernier, mais depuis ce temps-là, ça ne fait que descendre. Si on regarde sur il me semble que j'avais vu un graphique qui était sur les 6 derniers mois, quelqu'un qui n'avait acheté au pic lorsque c'était une bonne chose, ben aujourd'hui, il a perdu à peu près la moitié de ce qu'il avait mis en argent. Donc, ça fluctue énormément, même à la bourse. Des placements sûrs et certains, des placements garantis, ça fait pas autant de fluctuations que du 25% en quasiment une journée. C'est pour ça que le Bitcoin, ça devient extrêmement dangereux. Donc, ce qui fait en sorte également qu'on arrive au terme de la semaine et Bitcoin, on a du moins 53, comme je le disais, ce qui est immense. Donc, des gens qui ont mis, on prend un chiffre fictif, qui ont mis un 100 000 $ se retrouvent avec un peu moins de 50 000 aujourd'hui, ce qui est assez important comme perte. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est crypto-monnaie et tout ça qui est basé sur à peu près rien et que justement, du jour au lendemain, ça peut faire « Oh, ciao, bye, merci », ben, c'est pas encourageant. C'est pas encourageant. Donc, pour ce qui est de la crypto-monnaie, c'est une très, très dure semaine. À quel point ça va revenir rapidement, ça, c'est sûr que non. Ou peut-être qu'il y en aura-t-il un chanceux là-dedans et qui retrouvera son pourcentage d'avant la semaine noire de la crypto-monnaie, je sais pas. Encore une fois, c'est assez dur à prévoir parce que oui, ça monte et ça descend, mais dans le cas de la crypto, ça monte et ça descend dans la même semaine. Donc, on n'est pas tout à fait dans les vrais... dans les vrais indices que la bourse pourrait donner pour des placements, comme je le dis, qui seraient un peu plus safe dans des trucs un peu plus, un peu moins risqués. Mais c'est du gros gambling, la crypto-monnaie. Et là, on a l'espèce de preuve cette semaine que tout le monde a perdu avec la crypto cette semaine. Ça, c'est assez marquant. Ça serait surprenant qu'il y en ait une là-dedans qui a réussi à survivre. Ou en tout cas, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les 14 titres que j'ai devant moi, c'est de l'effondrement. Évidemment, à plusieurs détails, 53 à 86% de pertes cette semaine, comme je le disais, en crypto. Ce qui fait en sorte que même Elon Musk doit revoir ses plans et doit recalculer ses choses avant de passer à la prochaine étape. On s'arrête quelques instants. Au retour, on va parler d'insolite un petit peu. Ça faisait longtemps. On s'en va entendre Valence avec Rosier ici même sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3.
Hier matin encore, j'ai prié, bu le vin, confessé. paquet, j'ai menti pour des fleurs et des prix. So sorry, so so sorry, j'ai menti, j'ai gagné que des fleurs. Je sais plus trop qui appelait. Je reste écrasé sur ma plage naufragée, brisée, malaisée sur les épines du rosier.
De retour au deuxième service, nouveau cette année, et c'est mon palmarès habituel préféré. Retraite Québec a finalement sorti les chiffres, donc on sait maintenant qui sont les prénoms les plus populaires de 2021. On a officiellement les nouveaux titres, et il y a un renversement de situation. Donc Noah et Emma deviennent les prénoms les plus populaires, détrônants pour la première fois depuis un extrêmement long moment William, qui était au sommet de la liste depuis plusieurs années. Léa, du côté des filles, n'est maintenant même plus dans le top 5. C'est assez difficile pour les petites Léa. Elle est tombée 8e. Donc quand même, passer de la première place à la 8e, c'est assez particulier. Donc Emma et Noah sont les nouveaux premiers prénoms de la liste. Ça change plus ou moins du côté des filles. C'est assez similaire année après année. Emma, Olivia, Alice, Florence, Charlie, Livia, Charlotte, Léa, Romy, Zoé. On aime beaucoup la lettre A. Et du côté des garçons, on varie quand même à plusieurs. Quoique, je viens de voir mon neveu en 7e position, Nathan. Donc, on est dans le top 10. Noah, William, Thomas, Léo, Liam, Jacob, Nathan, Arthur, Édouard et Félix. Édouard étant remonté depuis une coupe depuis... Non, c'est assez similaire finalement. 466, 56, 95. C'est assez similaire, j'ai rien dit. Voilà, donc pour le top 10 des prénoms masculins et féminins. Mais évidemment, ce qui retient toujours l'attention et ce qui fait mon bonheur à chaque saison, c'est les prénoms inusités de l'année 2021. Donc, où on se gâte sur tout ce qui est orthographe, lettres superflues et qu'on donne à ses enfants, malheureusement, le bonheur de devoir expliquer comment s'écrivent leurs prénoms pour le restant de leur vie. Et on débute cette année avec les filles. Tiens, on va y aller puisque je vois une jolie Daphné, D-A-F-N-E-Y, Amy Lee, E-M-Y, trait d'union L-E-E, Isabelle, H-apostrophe, Isabelle Juliane, J-U, trait d'union, Liane, 2-N-E, Coralie avec 2-E et un K, Meg Anne, ce qui est pas si mal, ça je l'ai déjà vu avant ça, mais où on innove, c'est avec les anciens prénoms les plus populaires, notamment Océane, mais dans ce cas-ci, on peut l'écrire O-C, Anne, C-E-Y, trait d'union A-N-N, pas de E. Rox, Anne, pas de E, mais deux N. Charlie, S, H-A-R-L-Y. Sophie, avec un F, c'est pas si mal. Isabelle, Y, S-A-B-E-L, un seul L. Du côté des garçons, c'est de plus en plus répandu. Par exemple, Alexandre, K-S, c'est pas la première fois que j'en vois, mais on a Alexei, K-S-E-Y, Billy, B, trait d'union, L-I-E-E, Christian, voilà, Christian, C-H-T, R-I-S-T-I-A-N, F-X, F-F, I-X, Eman, 2-A-N, Jason, on est rendu là, Jason, A-Y, trait d'union, S-U-N, Jackson, même écriture, probablement des jumeaux, J-A-C-K, trait d'union, S-U-N. On a une autre variation de Jason, J-A-I-S-O-N, Kevin, A-Y-V-E-N, Cedric, S-E-D-R-I-C, pas de K, c'est important, Stanley, mélange de plein d'affaires, S-T-A-N-D-L-E-Y, Xavier, Z-A-V-I-E-R, et Zach, Harry, Z-A-C-K, trait d'union, Harry, rien de moins. Et sinon, le prénom compte triple cette année, c'est les variants de Aiden, puisqu'on peut l'écrire A-E-D-A-N, A-E-D-E-N, A-I-D-A-N, D-E-N, D-O-N, et on repart avec E-I-D-A-N, E-I-D-E-N. Amusez-vous, Aiden s'écrit comme vous le voulez. Catégorie géographie pour des garçons. On y retrouve Amos, Boston, Everest, Monaco, Orlando, Rio et Tennessee. Du côté filles, on a Genève, Kenya, Louisiane, Maui, Olympe, Rio, encore une fois, donc c'est un prénom pour les deux sexes, Sorel, Tokyo et Tulum. Ça, Tulum, c'est très, très drôle. Spécial Italie, puisqu'on y retrouve également Milan, Romain, Sicile et Toscane. Le mélange de prénoms, comme je le disais, on s'entend pas entre un prénom ou un autre, donc pourquoi ne pas les mélanger ensemble? Du côté féminin, Christasael. Je vois... J'aurais dit Christiane, mais c'est un peu plus vieux. Christasael. Il y a Maël, ça c'est clair. Anocéane. Pourquoi pas? Garçon, on s'est un petit peu plus gâté là-dessus. On a Zathaniel Stivo, mais en un seul prénom. Sam Willy, Rikael Ludoïc, Jonathan Alexandre, Alexiandre et Alexandric. C'est l'unique raison pourquoi les Alex sont pas dans le top 10, c'est parce qu'il y a des variations. Dans la catégorie belle qualité et vertu, côté garçon, on a Believe, Carrie Star, Chris, Clever Exhaust, Dieu merci, Famous, Gold, Great, Magnifica, pas magnifique, Magnifica, Preacher et Sultan. Pourquoi pas? Du côté féminin, allégresse, bonne humeur, en un seul mot, en un seul prénom dans ce cas-ci. Exaucée de la lumière, rien de moins, mon Dieu. Gentille, goodness, je l'appelle goodness, grâce de Dieu, prestance, promesse, merci. Remi-rose, légitime, sensitiva et tempérance. Tempérance, pas si pire, tempérance, ça va. Il y avait une série avec... Tempérance Brennan, Bones, 12-16 ans, son Ferrer. Toujours dans les noms composés, ultra créatifs, parce que les qualités étaient dans un seul prénom. Donc maintenant, du côté créatif, Conrad, Luc, Didier, D. Didier, trait d'union, D. Ganza, Royce, Jacoby, Jean Fernand. Ça, c'est très vieux. Rod Alexandre, Ryan, Rick, Simon, Guy, Vlad, Cédric. Vlad, Cédric, yes sir. Du côté féminin, Billy, Jeanne, Clairvie, Astrid, il fallait que je leur lise, Lou, May. Est-ce que c'est parent avec Marie, May? On sait jamais. Oriana, Eve, Gaël, Soléane, Lily, Wintir, Violet, W-Y-N-N-T-I-R, vous le saurez. Pas de genre à donner. Côté enregistré féminin, Benjamin, Brian, David, James, Ludovic, Mathias, Rémi, Roméo, Thibault. Et du côté féminin enregistré, Alice, Rose, Abigail, Élise, Evelyne et Marie-Pied. Voilà, c'est tout. Côté varia, où on sait pas trop dans quelle catégorie les classer, on a Adm. Donc, Adam, pas de A. Bam, B-A-M. Bibipsou, B-I-B-I-P-S-O-U. Français, tout simplement. Hibou, laine, marin, piponique, radiant, volcan. Il y a un enfant, volcan, en 2021. Abat, Eve, garni, pas de E. Matou, pas de E non plus. Naval, saut, Lay et Story. Fan d'Instagram. So Lay, S-O-H, trait d'union, apostrophe, L-E-I-L. Et pendant que j'ai toujours le site de Retraite Québec d'ouvert, parce que pourquoi on a mis ça sous l'onglet de Retraite Québec, on ne le sait jamais. Volcan est effectivement enregistré en 2021 comme étant un prénom masculin. Donc voilà pour le palmarès des parents créatifs de l'année 2021. Toujours aussi étrange, année après année. On s'en sortira pas, malheureusement. On s'arrête quelques instants. Au retour, on parle cinéma à nouveau ici même sur les ondes du deuxième service à Chiz 94.3 et à CFAC 88.3 à Sherbrooke.
Tous les lundis,
sur les ondes de Chiz,
à 13h, c'est Écoute locale, la playlist.
Ben non, c'est les entrevues.
Mais non, c'est une playlist.
On s'est dit 13h, les entrevues.
Mais c'est moi qui l'anime, là, je le sais, je monte ça, là, je fais une sélection des artistes, là, puis tout le monde... C'est...
Et fais-la donc tout seul dans l'émission.
Bon, OK. Un lundi sur deux, à 13h, je vous présente ma sélection des dernières sorties musicales de la Ville de Québec.
Un lundi sur deux, à 13h, je reçois un artiste de la scène locale de la Ville de Québec pour jaser de musique. Avec Guillaume Pepin,
Émilie Rioux, Écoute locale sur les ondes de Chiz 94.3. Bon, t'es-tu contente, là?
Oui. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
abonné. Je croyais être libre de penser. On m'a piégé. Ils sont passés les fenêtres. J'entends le bruit dehors. Qui a éteint la lumière? Je ne vois que les ombres imprimées sur mes paupières.
Sauvage avec Chambre d'écho qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3.
Mais surtout pas ça. Ce sort est trop dangereux.
Pourquoi? On a déstabilisé l'espace-temps. Le multivers est un concept dont on sait effroyablement peu de choses.
Cette profanation de la réalité ne restera pas impunie.
C'était la seule façon d'y arriver. Mais jamais je n'ai voulu qu'une telle chose se produise. Wanda.
Je me doutais bien que tu te pointerais tôt ou tard. J'ai fait des erreurs. Et beaucoup de gens ont souffert.
Je ne suis pas venu ici pour te parler de Westview.
Alors pourquoi es-tu là?
On a besoin de ton aide.
Pour faire quoi?
Que sais-tu à propos du multivers? Je suis désolé, Steven. J'espère que tu comprends que la plus grande menace pour notre univers c'est toi. On dirait que tu as perdu le contrôle.
Doctor Strange dans le multivers de la folie, film qui est à l'affiche depuis la semaine dernière. J'ai essayé de trouver un résumé qui en dévoilait pas tant que ça, puis c'est assez difficile de trouver un bon résumé, au sens où ceux que j'avais dévoilaient une assez bonne partie de l'intrigue, ce que je trouvais particulier, ben dévoilaient une partie de l'intrigue. En révélait beaucoup ou révélait rien du tout. Fait que c'est assez difficile. Le pire résumé que j'ai lu, c'est « Le multivers est un concept dont on sait effroyablement peu de choses. » Soit à peu près la première ligne du film, du film de la bande-annonce, c'est-à-dire. Et sinon, j'ai le résumé trop long de Sinoche. Qu'est-ce que je peux garder d'arriver? Non, même pas. Même la première ligne dévoile quelque chose qu'on est supposé découvrir dans le film. Fait que. Cinéplex, Doctor Strange dans le multivers de la folie est une épopée enivrante à travers le multivers avec Doctor Strange, son ami Wong et Wanda Maximoff, la sorcière rouge. Et c'est ça. Parce que je l'aime vraiment pas, le résumé de Sinoche. Il en dévoile, à mon avis, quand même beaucoup. On part avec Doctor Strange qui rencontre qui remarque une jeune adolescente qui semble faire, ou du moins... Ben en fait, non, je vais garder la première ligne qui est bonne. Alors qu'il assiste au mariage de son ex Christine, le docteur Strange croise la route de l'adolescente America Chavez, poursuivie par des créatures mystiques. Ça va. OK, ça se dit. America Chavez peut traverser le multivers et voyager d'une réalité à l'autre. OK. Afin d'empêcher d'arriver à ses fins, Strange et America s'enfuiront dans un autre univers pour mettre la main sur un précieux livre qui les aiderait dans leur quête. J'arrête là. Donc, voilà, c'est très peu résumé, mais ça dévoile moins de choses que dans le texte original. En tant que tel, c'est, bon, un autre film de multivers, entre guillemets. On est dans cette phase-là avec Marvel, notamment. On l'a vu dans Spider-Man et le multivers. On l'a vu avec... tout, partout, tout à la fois, Everything Everywhere All at Once, des frères... ils sont-ils là-dessus? Ils sont pas sur celui-là. Intéressant. C'est vrai, c'est Sam Raimi qui est réalisateur. Intéressant. Donc, dans le cas de Doctor Strange, on a besoin de peu de références, j'ai envie de dire, au reste de la franchise, ce qui est assez rare habituellement dans des films dits chorales, entre guillemets, où il y a plus d'un super-héros dans le film. Dans le cas de Doctor Strange dans le multivers, j'ai envie de dire, évidemment, faut avoir en tête le premier Doctor Strange, c'est assez inévitable. Les Avengers, il y a quand même des répercussions sur les décisions de Stephen Strange, on l'entend dans la bande-annonce. Donc, Avengers 3 et 4. Inévitablement, dans le cas de Wanda, on a besoin de la série WandaVision parce qu'on parle de Westview dans la bande-annonce. Donc, si on veut le référent, c'est 8 épisodes auxquels il faut se rattraper. J'ai envie de dire qu'on a besoin de What If aussi parce qu'il y a un personnage qui apparaît depuis la série What If qui, bon... peut-être qu'on peut se dire, ah, c'est random dans ce film-là, dans Doctor Strange, de voir ce personnage-là dans ce rôle-là, mais avoir vu What If, il y a une suite. Donc, il y a quelques épisodes de What If qu'on peut aller rechercher, puisque, bon, comme l'on le dit, c'est le multivers, c'est des possibilités où si telle personne dans sa vie avait fait tel choix de vie, ben ça aurait donné cet univers-là plutôt que cet univers-là. Donc, évidemment, ça fait en sorte que le conseil dans le multivers que Doctor Strange doit rencontrer, ce sont des personnages qui viennent de... Eux, techniquement, viennent du même univers, mais pour nous, ils viennent tous des univers différents, des possibilités différentes, puisqu'ils sont les remplaçants, entre guillemets, de ceux qu'on connaît dans notre version. Donc, en même temps, pour Thor 4, où on voit Thor, Thor femme, Thorette, Jane qui devient Thor, c'est pas complètement fou à quel point ça va être à cause du multivers qu'on va arriver à cette version-là dans Thor 4, je sais pas. C'est une supposition, mais c'est dans bande-annonce. Là, je dévoile rien non plus. Il y a des photos de Natalie Portman déguisée en Thor, fait que là, on peut pas chialer. Fait que Doctor Strange, dans ce cas-ci, il y a quand même beaucoup de caméos, beaucoup de surprises que déjà là, c'est en train d'être gâché sur Internet par des sites qui veulent absolument faire du clic. Ou c'est parce que c'était dans une bande-annonce rapidement 3 secondes et qu'on justifie cette mince justification-là de cette manière-là. Ça arrive quand même, il faut faire attention. Évidemment, on est rendu à la semaine 2, donc les fans finis vont déjà l'avoir vu. Ce qu'on devrait voir, c'est ceux qui voulaient attendre justement que les foules soient moins grandes au cinéma et ou qui vont retourner voir le film. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments quand même. Vu que c'est justement du multivers, vu qu'on se donne la peine de donner des clins d'œil à d'autres franchises, à d'autres événements, il y a des scènes marquantes dans ce Doctor Strange-là, même si c'est un autre univers, même si c'est pas l'univers principal, entre guillemets, il reste quand même qu'il y a des éléments ici et là qui, bon, sont quand même assez marquants. J'ai pas été déçu, j'avais pas énormément d'attentes non plus, parce que de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ceux qui étaient déçus du film, c'est ceux qui avaient des immenses attentes que ça allait être faramineux, que ça allait être majestueux, nanana, bon, mais qui sont arrivés peut-être avec trop d'attentes, j'ai envie de dire, avec ce film-là, qui est un peu plus noir que les autres, un peu moins d'humour, mais le personnage de Strange, Doctor Strange en général, n'est pas le personnage le plus funny, le plus rieur. T'sais, on est loin d'un Spider-Man, justement, qui fait des gaffes, qui est maladroit. Doctor Strange, c'est un médecin, il est très cérébral, donc... On le comprend aussi, et veut, veut pas, on va explorer les autres univers du Doctor Strange aussi, puisqu'il est personnage principal, personnage central, malgré tout, même si Wanda est quand même assez présente, que c'est, entre guillemets, la suite de WandaVision. Évidemment, il y a quelques petites incongruités entre la série et Doctor Strange. Il y a eu un problème de calendrier également. Normalement, Doctor Strange aurait dû sortir plus tôt, ou en tout cas, la... série WandaVision devait sortir après Doctor Strange. En tout cas, il y a une espèce d'amalgame, justement, vu que là, techniquement, ouais, c'est peut-être ça. Je pense que c'est WandaVision qui devait sortir après Doctor Strange, normalement. Donc, qui faisait peut-être une espèce de meilleure continuité, entre guillemets, même si techniquement les événements de Wanda se déroulent avant le multivers. L'aventure dans le multivers, entre guillemets. Fait que c'est pour ça. Il y a. Ah, mais en même temps, la fin de WandaVision justifie le multivers. Bref. Faut le prendre pour ce que c'est. Il est un peu indépendant du MCU, j'ai envie de dire, parce qu'il fait pas de référence tant que ça aux autres personnages principaux, quoique il y a des mentions malgré tout. C'est pas un mauvais film. C'est encore une fois, j'essaye de me préserver des bandes annonces avant de voir ces films-là pour justement ne pas avoir un million d'attentes. Donc moi, j'ai été satisfait en sortant de Doctor Strange. Je trouvais que c'était un bon film malgré tout. Il est un peu long, 2 heures. Semble-t-il que la version longue dure 2 heures et demie. Je pense que c'est assez bien dosé pour 2 heures. Évidemment, on ouvre la porte sur un Doctor Strange 3. C'est pas complètement impossible. Il y a un autre personnage qui est introduit dans les scènes d'après-générique. Il y en a 2. Ça vaut la peine de rester quand même jusqu'à la fin. Il y a un petit clin d'œil malgré tout à ces après génériques. Captain America en avait fait un dans ce genre-là. Sauf erreur, c'était Captain America qui l'avait fait. Donc, ça vaut la peine. Ça introduit des nouveaux personnages. Ça a été banni pour des personnages homosexuels dans des pays pour aucune raison, parce que les personnages homosexuels, spoiler alert, sont même pas de tertiaire, je pense qu'ils disent même pas de réplique, ou en tout cas ils en disent une et quart à deux. Fait que c'est complètement ridicule d'avoir banni ce film-là pour ces raisons-là surtout. Ça vaut la peine d'y aller, ne serait-ce que pour découvrir la fameuse scène choquante qui fait en sorte que le film au complet est banni. C'est aucunement choquant, puis c'est à une limite anecdotique comme scène, donc c'est un bannissement totalement ridicule. Doctor Strange dans le multivers de la folie à l'affiche partout au Québec serait certainement pour au moins un bon mois, ou du moins jusqu'à ce que Thor 4 prenne l'affiche, même si je pense que c'est pendant l'été, c'est pas à l'automne, fait que ça sera pas tout de suite. Donc voilà, Doctor Strange à voir en salle quand même avant de le voir sur Disney+. Ça reste quand même un film adapté pour le cinéma. On s'arrête quelques instants. Au retour, dernier film à parler cette semaine. Ici même, au deuxième service, sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3.
Qu'il sait que c'est toi qu'on reconnaît.
les Andres avec Tintagel qu'on vient d'entendre sur les ondes de chez 94.3 et de chez FAC 88.3. Nouveauté, ça vient tout juste de sortir, sauf erreur. Mais qui... Prochaine bande-annonce, qu'est-ce qu'on a tous fait? Oh bon Dieu! Film français, comédie française qui a pris l'affiche il y a un petit moment, qui n'est presque plus à l'affiche d'ailleurs, donc ça sera pour du rattrapage en vidéo sur demande, certainement.
Ils sont partout.
Hein? Mais qui?
Mais nos gens, on peut plus y faire un pas sans tomber sur eux.
Mais je te rappelle que c'est toi qui les as fait venir habiter ici.
En attendant, j'étouffe.
Ah, Claude, vous tombez bien.
Oh, une autre fois, Chao, parce que là, je suis très en retard en maths.
Oh, Charles, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Je suis affreusement en retard, je dois y aller.
Pensez à réserver votre soirée du 17 juin.
Qu'est-ce qui se passe le 17 juin?
Je vais jouer Jésus.
Ben, Jésus, il était pas...
Oh, bonjour, Claude. Je vous offre un café?
Et non.
Vous, Claude!
Hé, hey, ce soir!
Comment ça, ce soir?
Ben, vous venez faire Shabbat à la maison?
Bon, on l'a fait vendredi dernier.
Ah, mais c'est tous les vendredis!
Tes coffees arrivent.
Oh, ils repartent quand?
Oh, il est resté flou, là.
Il a dit pour une durée indéterminée.
Mais ça, c'est pas du tout flou, ça. Mais non, mais ça y est, immigre.
Ils sont vraiment mignons, nos parents.
Ils sont mariés depuis combien de temps?
Ça fera bientôt...
40 ans, le 18 juin.
C'est l'occasion de réunir toute la famille.
Comment ça, toute la famille?
Vos parents, quoi.
Moi, mon père, c'est nowhere. Il a trop mal vécu le dîner à Pékin.
Je viens d'avoir mes parents, ça fait une heure qu'ils vous attendent.
Je suis en face de votre sympathique papa.
Et je connais pas ces gens-là.
J'ai l'impression qu'on s'est trompé de chinois.
Quelle tuile.
Qu'est-ce qui se passe encore?
C'est les chinois, ils ont pris notre chambre.
On a tiré au sort les chambres et toi et maman, vous dormez dans la yourte.
Quoi?
Vachement sympa.
Une petite orange?
Régalez-vous, elles viennent de Jaffa.
On voit bien que vous n'avez jamais goûté celle de Constantine.
Shalom.
Shalom alaikum.
C'est un problème. Alors là, c'est une belle brochette de cas sociaux, ça. Merci à nos jambes. Hein.
Je veux goûter la sauce.
Tu t'as regardé? Tu es gras comme un facouché.
Femelle sadique.
Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Claude?
J'en sais rien.
Comment on dit en France? Chacun sa merde.
Comme, ah, ça c'est drôle, si Dieu le veut en salle au printemps, ça c'est c'était surtout à cause de la COVID, mais bon, ça, j'avais pas vu cette boîte-là de la bande-annonce. Claude et Marie Verneuil forment un couple uni pour le meilleur et pour le pire. Depuis 40 ans, pour souligner cette longévité, leurs quatre filles décident d'organiser une grande fête dans la maison familiale où tous seront réunis. Pour l'occasion, les filles invitent les parents de chacun des gendres. Les parents de Rachid, David, Chao et Charles devront cohabiter sous un même toit avec les Verneuil, ce qui s'annonce pour le moins mouvementé. Les habitants des valeurs de chacun entreront certainement en conflit à quelques reprises. Donc, c'est la suite. Troisième volet de la série. Bon, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Maintenant, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Dans ce cas-ci, on rajoute évidemment les parents des quatre gendres. Donc, pour la petite histoire, les quatre filles des Verneuil, donc des Français purs souches, ont marié un arabe, un juif, un chinois et la dernière, dans le premier volet, se marie avec un Africain. Dans le deuxième, c'est on se concentre sur la sœur de Charles. Dans le troisième, comme je le disais, ce sont les parents, les belles familles qui débarquent en France. C'est une comédie très, très légère. Faut pas en sortir de là. C'est à peu près, évidemment, la même trajectoire. Ça commence que tout le monde arrive, tout le monde se chicane un peu, il y a un souper où ça vire mal, et ça termine. En fait, le premier et le troisième sont assez miroirs, j'ai envie de dire, et là, ça se termine que tout le monde, finalement, s'entend bien, malgré leurs différences. Malgré leurs préjugés, il y a des blagues ici et là. Bon, il y a du monde qui disent qu'il est un peu borderline raciste. Oui, puis non. Tu sais, ça reste une comédie d'été légère. Justement, on se prend pas au sérieux, peut-être un peu trop léger dans le dernier film. Bon, on T'sais, on n'a pas de grande œuvre non plus sous les yeux. On est loin d'être la comédie de l'été. Quoique les entrées en France, sauf erreur, sont pas si mauvaises non plus. Les critiques sont correctes également. T'sais, autant justement, on va vanter que c'est un divertissement à prendre comme il convient en toute légèreté. Ça, c'est Femme Actuelle Parisien qui dit bourré de rebondissements. Nous regarde en épinglant les préjugés racistes de Verneuil, mais aussi des gens et même des parents de ces derniers, aussi efficaces que les premiers, mais ça va également en démolissant le film, en disant comédie ringarde qui n'a plus peur de rien parce que tout est bon à prendre, dernier volet poussif. De quoi créer de la pagaille, mais une pagaille qui s'essouffle à force de tourner en rond et exploite les mêmes ingrédients et au final ne fait plus rire du tout. Le monde, c'est assez difficile. C'est ça, c'est à prendre comme c'est, j'ai envie de dire. C'est pas, c'est ça, c'est une petite comédie légère française. Les Français sont capables de faire des comédies qui ont de l'allure. Fait que, tu sais, comparativement à nous autres, Québec, des fois, on a beaucoup de misère. Dans ce cas-ci, c'est vraiment comédie pour comédie. Fait que, Faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher à se faire d'une espèce de « Oh mon Dieu, mais c'est si extraordinaire ou c'est si démolissible, c'est si mauvais. » Donc, voilà pour ça. Sauf erreur, il est pas à l'affiche à la Maison du cinéma, mais du côté du CLAP, il y a des représentations de soir seulement, 21h40, si j'ai bien vu. Donc, il est encore à l'affiche du côté de Québec. Malheureusement... Ah non, il est là à la Maison du cinéma. J'ai rien dit. Maison du cinéma, c'est à 12h50. Donc, c'est l'inverse l'un de l'autre. Donc, à Sherbrooke, faut y aller rapidement. C'est à 12h50. Vous avez le temps d'y aller. C'est dans une heure. Dans le cas de Québec, c'est seulement à 21h40. Donc, faut attendre la fin de soirée pour se rendre à Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu avec, notamment dans le rôle principal, Christian Clavier et Chantal Lobry, qui sont toujours aussi drôles les unes que les autres. Sinon, il y a peut-être l'histoire du pommier qui sert à rien. Mais à part de tout ça, le reste du film est quand même sympathique malgré tout. Donc, à voir au cinéma encore, 8 avril sorti. Donc, on est dans les derniers mille, littéralement, probablement la dernière semaine, et pour Sherbrooke et pour Québec. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Chiz 94.3 est fier de présenter, en collaboration avec CKUT 90.3, le concert rock metal noise du groupe Pangea des Futura. C'est un rendez-vous le dimanche 22 mai, 15h, à Victo. Pour plus d'informations, visitez le www.fimaev.qc.ca.
Sophia Bell présentera son tout premier album Anxious Avoidant le 13 mai à Lanty. S'inspirant des sons colorés et incomparables du début des années 2000, Anxious Avoidant est parsemé de ballades mielleuses et d'hymnes pop-punk. Rendez-vous le 13 mai à Lanty. Billets en vente sur lepointdevente.com.
Moi, c'est Robert, j'aime vraiment Linux pis des kiwis des nerds.
Et oui, Robert, pour citer un grand homme, l'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Dans la montagne. légende est bien vivante, les morts ont toujours raison, faut sortir.